Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande si les enfants rois deviennent forcément des adultes rois ou pire, des adultes tyrans, ces adultes autocentrés, narcissiques et surtout intolérants à la frustration, adeptes du tout tout de suite, de la satisfaction immédiate et du moi, moi, moi. Des adultes rois, des adultes tyrans que l'on croise partout, en famille, dans le couple, au travail, dans les transports en commun, dans les files d'attente. Des adultes à ne pas confondre avec les pervers narcissiques qui, eux, cherchent sciemment à détruire leurs victimes. On s'intéressera d'abord aux enfants rois, et puis nous verrons comment devient-on un adulte roi, un adulte tyran. Peuvent-ils changer? Comment mieux vivre à leur côté? Comment leur redonner les clés du savoir-vivre? Si vous êtes un adulte roi ou si vous en côtoyez, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Clarisse et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis en toute fin d'émission, vous retrouverez la chronique de notre Scheherazade du numérique, Julia Foyce. Il était une fois dans le web.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Des écureuils.
Oui, des écureuils. Ces écureuils ont été dressés à décortiquer les noix. Voyez comme ils la tapent avec leurs petites pattes pour s'assurer qu'elle n'est pas pourrie. Oh, regardez, je crois que celui-ci en a trouvé une pourrie.
Daddy, je veux un écureuil. Achète-moi un de ces écureuils. J'en veux un.
Ma chérie, tu as déjà plein d'animaux merveilleux.
Tout ce que j'ai à la maison, c'est un poney. Deux chiens, quatre chats, six petits lapins, deux perruches, trois canaris, un perroquet vert, une tortue et un hamster idiot. Je veux un écureuil.
D'accord, ma puce.
Mais je ne veux pas n'importe quel écureuil. Je veux un écureuil dressé.
Entendu. Daddy t'achètera un écureuil aussi vite que possible. Monsieur Wonka, combien voulez-vous pour un de ces écureuils? Dites-moi votre prix.
Non, mais ils ne sont pas à vendre. Elle devra s'en passer.
Daddy!
Madre, chérie, Monsieur Wonka se montre intransigeant.
Si tu ne veux pas m'acheter un écureuil, je vais le chercher moi-même.
Un extrait de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, adapté du célèbre roman de Roald Dahl, avec une enfant tyran, peste à souhait, Veruca Salt. Avec nous pour évoquer les enfants rois et les adultes rois, qui deviennent parfois des tyrans, deux invités. Bonjour Aldo Nauri.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez exercé la pédiatrie pendant une quarantaine d'années et vous publiez chez Odile Jacob trois grandes questions autour de la famille, une réédition de trois de vos ouvrages, paraît également chez le même éditeur Entendre l'enfant, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence, L'enfant bien portant. Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir également. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne. Vous avez publié au PUF Éloge du Mikado et vous êtes l'une des expertes éclairées de l'émission. Aldo Nauri, vous avez une étiquette de pédiatre, conservateur, voire réac. Vous avez envie de décoller cette étiquette ou alors vous prenez plaisir à cultiver ce que l'on vous reproche parfois?
Non, l'étiquette, j'y suis indifférent. Je veux dire que ce n'est pas... si je dis que le ciel est bleu, on va me dire que je suis réactionnaire. Ben, le ciel est bleu, et puis c'est tout. On peut tout dire ce qu'on veut. J'ai passé 40 ans à m'occuper d'enfants en entendant la question des parents, que les parents se sont mis à poser aux pédiatres, et qui a changé du tout au tout aux alentours des années 70. Auparavant, on demandait au pédiatre d'éviter que l'enfant soit malade et qu'il meure. La pédiatrie a répondu à cette question, faisant en sorte que les enfants soient bien portants. Et les parents ont demandé, aidez-nous à faire en sorte que nous ayons des enfants qui deviennent des adultes de qualité. Et là, la pédiatrie n'a pas tout à fait pris le tournant qu'il lui a fallu. Pour ma part, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir répondre à cette question. Et je me suis donc beaucoup penché sur les relations intrafamiliales et sur la manière d'élever, j'aime beaucoup le terme, élever, ça a un sens ascensionnel. On part d'un niveau très bas et on enlève vers le haut, et d'élever les enfants. Et donc j'ai beaucoup travaillé, quantité de discours annexes, et en me formant à quantité de ces discours, et je suis parvenu à produire un discours qui me paraît cohérent, dans la mesure où il trouve ses racines de façon scientifique, aussi bien dans la biologie que dans la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la philosophie, tout ce qu'on veut. Et donc j'ai élaboré quelque chose de cet ordre-là, qui est, aussi curieux que ça puisse paraître, extrêmement proche de ce qu'a été l'éducation pendant les 15 000 années où elle a été forgée de façon empirique et où elle a produit ses effets. Et donc je me dis, bon, pourquoi il y a 70 ans on a décidé que de toutes les façons on allait jeter tout ça à la poubelle? Au nom de quoi? Eh bien, en me penchant sur cette question, je me suis aperçu simplement que, en y regardant de près, en analysant les faits, en gros, ce qui s'est passé, c'est justement l'avènement de l'individu qui devient un adulte tyran parce que il n'a jamais été éduqué. Alors, et qu'il est resté un enfant toute sa vie, même s'il est adulte de par sa conformation.
Alors avant de voir à quoi peut ressembler un adulte roi, un adulte tyran, à quoi pourrait ressembler la petite peste de Charlie et la chocolaterie une fois devenue une jeune femme, pouvez-vous nous dresser le portrait robot d'un enfant roi? C'est un enfant au comportement omnipotent, qui impose sa loi aux adultes, intolérant aux frustrations et qui vit selon un principe de plaisir immédiat, un enfant qui fait ce qu'il veut, décide, impose et vit pour lui seul?
Tout à fait, d'un bout à l'autre. Je veux dire que je vous donnerai un tout petit cas clinique pour vous montrer ce que c'est. Des parents qui viennent me parler de leur enfant de 7 ans qui est là et ils me dressent un portrait qui fait qu'en définitive il est vraiment à jeter tellement il n'y a plus rien à faire. Et je le convoque, il est là en train d'entendre tout ça, et je lui dis « Et dis-moi, tu penses quoi de ce que disent tes parents ?» Et il dresse vers moi un doigt accusateur en me disant « Vous allez me dire, vous docteur, vous trouvez normal que ma mère s'achète une robe à 150 euros et qu'elle me refuse une paire de Nike à 130 euros, à 80 euros ?» Mais prenons ça, voilà, c'est son désir. Et je me tourne vers ses parents pour voir un peu ce qu'il en est. Et je croise le regard de son père qui me dit « T'es intelligent. » Je veux dire qu'il y a quelque chose là comme ça qui signe la démission. Et cet enfant, face à cette démission complètement, affiche totalement son caprice sans jamais, à aucune espèce de moment, se poser la moindre question qu'on lui pose.
Mais l'enfant roi, n'est-ce pas la pente naturelle de tous les enfants?
Ah ben c'est la propension. Le bébé d'aujourd'hui naît exactement dans les mêmes conditions qu'il naissait il y a 7 millions d'années quand l'espèce s'est spécifiée. Et l'éducation est destinée à faire en sorte qu'en 4 à 5 ans, on lui fasse parcourir le chemin de l'évolution de ces 7 millions d'années. Et évidemment, il est doté d'un système pulsionnel qui est autoconservateur, qui est fait pour le défendre lui-même. Mais c'est très important, les choses ont changé. Nous ne sommes plus du tout dans l'hostilité du milieu d'il y a 7 millions d'années. Aujourd'hui, on est dans un milieu protecteur. Et il est fondamental de lui enseigner ce milieu.
Sarah Chiche.
Et puis n'oublions pas, effectivement, qu'auparavant, il y avait un fort taux de mortalité infantile. Donc, on n'investissait pas autant les enfants, puisqu'on savait qu'on pouvait potentiellement perdre son enfant. À partir du moment où, grâce à la pédiatrie, grâce au progrès de la médecine, le taux de mortalité infantile a considérablement baissé, à partir du moment où, via la pilule, il y a eu un taux de contrôle des naissances accru, ben, on a eu moins d'enfants. Et donc, qui dit moins d'enfants, dit la possibilité de les investir davantage. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on nous pousse tellement à investir nos enfants, à bien s'occuper d'eux, que parfois, on peut les surinvestir. Et c'est ce qu'on entend dans l'exemple de Charlie et la chocolat. Cette petite fille, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et au fond, derrière ces demandes répétées d'avoir toujours plus, il y a une angoisse de vide absolument terrible.
Existe-t-il, Sarah Chiche, plus d'enfants rois, d'enfants tyrans qu'il y a un siècle? J'entends partout des déplorations sur le fait que l'enfant est érigé en monarque absolu et que le bon peuple adulte doit absolument se prosterner devant lui. C'est une vue de l'esprit ou pas?
Non, je crois pas. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je me promenais dans un quartier du nord de Paris. Je m'arrête à un café et j'entends une femme me vanter les mérites de l'extracteur de jus bio parce qu'elle était avec son enfant. Elle m'en parle, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et elle ne s'arrêtait pas. Et au fond, elle était littéralement tyrannisée par la nécessité de donner 5 fruits et légumes à son enfant pour qu'il soit absolument bien portant, pour qu'il soit... Et cette pauvre femme s'occupait absolument plus d'elle, et au fond, à part parler de l'extracteur de jus pour nourrir son enfant, elle était littéralement vidée. Ce que je veux dire par là, derrière cette petite anecdote, c'est que effectivement, on nous vante les mérites d'un enfant qu'il faut protéger, qu'il faut surprotéger, dont il faut s'occuper. Et voilà, et ça aboutit à des enfants rois surinvestis parfois.
Pour ma part, moi j'ai appelé ça, j'ai donné un nom à cela. J'ai dit qu'on était tombé dans l'infantolâtrie, c'est-à-dire dans le culte de l'enfant. qui est très mauvais pour l'enfant lui-même, pour une raison simple, c'est qu'il a besoin d'être cadré, d'être à sa place et de savoir qu'il y a des limites.
Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser son enfant à l'abandon. Par exemple,
non,
moi, quelque
question.
Chose qui me fait bondir, c'est quand j'entends certains pédiatres dire « oui, il faut le laisser pleurer, ça lui fait les poumons ». Vous savez, des choses comme ça. Alors qu'un petit, par exemple, qui pleure, je pense qu'il faut...
Simplement. Nous sommes... Il faut pas tomber dans l'excès de ce côté-là, faire les poumons, j'ai entendu ça. C'est pas la question. Je veux dire que j'ai tellement écrit sur les troubles du sommeil et les pleurs. Mais ce que j'entends dire par là, c'est que cette infantolâtrie a été mise en place, non pas du tout de façon... Par hasard, ni de façon... elle a été mise en place parce que c'est un mécanisme extraordinaire pour booster la consommation. Et à partir du moment où on fait tout pour son enfant, d'accord ? Et cette femme qui cherche son extracteur de jus, eh ben elle a acheté un extracteur de jus parce qu'on lui a dit que... Et c'est l'enfant est un moteur de ce côté-là. Or, précisément, ce que je m'évertue constamment à dire, c'est l'enfant, c'est extraordinairement solide, c'est extraordinairement plastique, et il ne faut pas tout le temps être obnubilé par l'idée qu'on risque de faire mal.
Vous avez raison, et je pense qu'il ne faut pas faire croire aux enfants que la vie, c'est l'allaitement à la demande.
Voilà.
C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils vont pleurer ou réclamer, tout de suite, la vie va leur donner de bonnes choses, le bon sein.
Allô Naouri, en 40 ans de pédiatrie, vous avez croisé des milliers d'enfants qui, au final, n'ont pas beaucoup changé d'un point de vue physiologique. En revanche, ce qui a profondément changé pour vous, ce sont les réponses que les adultes ont apportées à ces enfants. Pour schématiser, en étant un peu caricatural, on est passé du « dans la vie, on ne peut pas tout avoir » à « non seulement tu peux tout avoir, mais tu as le droit à tout ».
Voilà, c'est exactement ça. Et si vous voulez, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette mutation en me demandant le pourquoi de la chose. Et la réponse que j'y ai apportée, dont j'ai vérifié la pertinence, c'est que quand on devient parent, c'est exactement comme si on tirait un trait sous une colonne de chiffres et qu'on faisait le bilan de sa vie. On s'aperçoit quand on devient parent qu'on a été l'enfant de ses parents et que l'on a nourri à l'endroit de ses parents de l'amour et du ressentiment. On veut donc économiser le ressentiment que notre enfant pourrait avoir à notre endroit. Et à cet égard, on se dit, à partir du moment où je lui cède, où je le séduis, il ne va pas m'en vouloir un jour. Or, et je disais aux parents, dès qu'ils arrivaient à la première consultation, et qu'on parlait de cela, je disais, quoi que vous fassiez, de quelque façon que ce soit, vous êtes condamné à être aimé comme à être haï. Parce que la haine est nécessaire pour le jour où il aura à s'écarter de vous. Et à partir de ce moment-là, ne cherchez pas à vous faire aimer, c'est la pire conduite qu'il puisse y avoir.
Sarah Chiche.
En même temps, c'est difficile de ne pas chercher à se faire aimer de son enfant, quand par exemple pour des parents qui n'ont pas été aimés eux-mêmes en tant qu'enfants et qui donc vont vouloir être dans la réparation et
le surinvestissement.
Le surinvestissement
oui,
alors
pardonnez-moi, oui. Moi je prends les éléments sur le plan statistique. C'est-à-dire que effectivement c'est difficile pour une frange de la population, mais statistiquement parlant, des enfants qui n'ont pas été aimés, c'est plutôt rare.
Alors que vous croyez ?
Ah oui. Oh oui, qu'ils aient éventuellement le sentiment de n'avoir pas été assez aimés, c'est bien que quelque chose est intervenu dans leur éducation. Mais en général, les parents font des enfants, et le fait même d'avoir fait un enfant et le met dans la position d'être aimé. Et l'amour des parents, ça alors moi je serais capable de faire des poèmes autour de tout cela.
Le regard de Julia Fauss, jeune mère de famille.
Je vous écoute et je suis...
bonjour
évidemment,
d'abord.
Ça me passionne. Bonjour, bonjour Ali, bonjour tout le monde. Non, et effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte quand on devient mère que c'est extrêmement difficile de devenir de résister à un ensemble de pressions au quotidien. Je vous donne un exemple. Je l'avoue, je donne des petits pots à manger à mon gamin et je n'ai pas envie ou pas le temps où il y a de toute façon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans une journée. Donc, cette fameuse marque de mixeur que tout le monde a, etc., je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai la chance d'avoir un pédiatre génial qui m'a dit, les petits pots, il y a ce qu'il faut dedans. Donc, je lui donne des petits pots. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de réflexions que j'ai prises, le nombre de regards. Alors, on est entre le scepticisme, entre le... On sent bien qu'on... Je fais de la peine à quelqu'un, je ne sais pas à qui, mais le fait de ne pas de ne pas prendre ce temps-là, de prendre du temps pour autre chose pour mon gamin, je deviens tout à coup une mauvaise mère, mais je le dis, moi non, ce sera des petits pots jusqu'à quand ? Je sais pas, mais jusqu'à plus tard.
Vous
en
permettez,
tout cas.
Madame, ouais. Je dirais, si vous voulez, qu'en tant que mère, à partir du moment où vous êtes mère, vous êtes naturellement, à votre insu, dans une forme de culpabilité dont vous ne savez
de toute
pas.
Façon, ouais.
Vous ne savez absolument pas du tout la nature. Et tout discours qui vous culpabilise est sûr de vous toucher.
Allez, nous attendons toutes vos questions et réactions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard d'inter 01 45 24 7000. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan. 01 45 24 7000. Calypso Valois, le jour.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h25 et on se demande ce matin si les enfants rois deviennent forcément des adultes rois, voire tyrans, avec le pédiatre Aldo Nauri et la psychanalyste Sarah Chiche. Bienvenue Cécile. Bonjour, vous appelez d'Allemagne.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle de Potsdam.
Bon, ouais,
j'ai la maison pleine de ballons, ma fille a eu 7 ans hier.
Ben, bon anniversaire avec un peu de retard. Alors, vous avez une fille unique, c'est ça ?
Exactement. Alors,
est-ce que c'est, ouais, est-ce que c'est une enfant roi ?
Bah, c'est difficile d'avoir le recul, c'est la question. J'essaie de... non, c'est compliqué. J'entendais justement la pédiatre, le pédiatre, la psychanalyste qui parlait du manque d'amour de l'enfance, si ça s'est mal passé peut-être que... Et ce débat... C'était aussi problématique d'éviter de reporter un peu trop d'amour à cause d'une frustration, donc ces choses-là. Mais je sais que j'ai su très vite que ma fille allait être unique et que je n'aurais pas d'enfant après elle. Et ça a été surtout de constater, on m'a toujours dit oui, il faut faire attention qu'elle ne devienne pas un enfant roi, ça se passe. Beaucoup plus rapidement avec des enfants uniques. Moi, j'avais d'autres... je voyais autre chose que j'avais constaté chez des adultes. Pas d'être devenir tyran parce qu'ils étaient enfants uniques, mais plutôt d'avoir un manque d'enjouement, d'être très très vite blasé, d'avoir du mal à se réjouir. Donc ça, j'ai essayé de jouer justement en laissant le désir grandir, de ne pas donner tout de suite... satisfaction par rapport à des... Donc par rapport à un jouet ou n'importe quoi, ou un animal de compagnie, justement avec l'extrait ce qu'on a entendu.
Sarachi, j'ai envie de vous répondre.
Oui, madame, je voulais vous poser une question. Vous parlez de votre fille, de son anniversaire. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez quelqu'un à vos côtés? Vous vivez avec quelqu'un? Il y a de la famille autour de vous, entre votre fille et vous?
Il y a le papa de ma fille, mais je suis loin de ma famille moi-même. Alors, c'est compliqué.
Et le papa, par exemple, vous a aidé pendant l'anniversaire à préparer?
Oui. Tous les ans, en fait, on a une petite tradition. La veille, on passe la soirée à deux à gonfler des ballons.
Votre mari et vous?
Oui, c'est comme ça. On se met à 22h jusqu'à minuit. On gonfle à deux les ballons.
Aldo Nauri, pour aller dans le sens de Cécile, vous, dans le secret de votre cabinet de pédiatre, vous faites l'éloge de la frustration auprès des parents que vous recevez. Pourquoi la pratique de la frustration est-elle vitale pour le développement de l'enfant? Eh bien, est-ce que ça signifie frustration, ça signifie privation?
Ah non.
D'accord.
Ah non. Non, la privation, c'est quelque chose d'actif et d'un peu sadique et qu'il faut condamner. La frustration, ça consiste éventuellement à ne pas hésiter à refuser quelque chose à un enfant qui fait un caprice. C'est dans l'histoire, mon écureuil, vous voyez, bon, ben non, il n'y aura pas d'écureuil et puis c'est tout. Et la frustration est une chose importante parce que l'enfant fait précisément l'expérience de la limite. Cette limite est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, elle est la métaphore de la limite qu'était l'enveloppe utérine autour du bébé avant sa naissance. C'est-à-dire, elle rappelle quelque chose qui est que la limite, c'est précisément le témoin de ce qu'est la vie. Donc, à partir du moment où il y a métaphore de la limite, il va y avoir quelque chose qui fait que l'enfant va accepter de ne pas avoir ce qu'il veut pour gagner l'amour de son parent. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et il va accepter également de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir éventuellement toujours aller dans le sens de l'obtention de cet amour. Et c'est dans cet échange-là qui fait que l'éducation s'est dévolue aux parents. Et c'est une affaire de parents et pas d'autre chose.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. Aldo Nauri, dans vos ouvrages, vous répétez inlassablement que l'enfant est confronté à une dure réalité. Il n'est pas seul au monde, encore moins le centre du monde, et qu'il n'a aucun droit à le prétendre. Et puis surtout que rien ne lui est dû.
Absolument. Et justement, quand vous parliez tout à l'heure des adultes tyrans, ce sont des individus. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le bébé se développe et jusqu'à à peu près la fin de la première année, disons 9-10 mois, 11 mois, il se passe quoi? Il se passe qu'il a l'impression qu'il est persuadé d'être un morceau de sa maman. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il peut rester seul, etc., etc. Il y a un stade de développement qui se trouve aux alentours de 10 mois, qu'on appelle le stade du miroir, où d'un seul coup, il se découvre comme lui-même. Et ce stade est le stade probablement le plus important de l'existence humaine, parce qu'il se découvre, dans les semaines qui suivent, comme dépendant de sa mère et comme soumis à la toute-puissance de sa mère. Parce qu'elle peut le faire vivre comme elle peut le faire mourir, je résume. Et à ce moment-là, si vous voulez, il va contre la toute-puissance de sa mère, qu'il décrète, lui, dans sa tête, dans un scénario paranoïaque, il va développer une stratégie de sa propre toute-puissance. Et c'est cette attitude qui est le centre même de l'éducation. Parce que, ou bien on le laisse... On devient en quelque sorte son prêtre, sa prêtresse, et on satisfait tous ses besoins. On ne corrige pas le scénario erroné et paranoïaque, ou bien on le corrige, et à ce moment-là, on l'éduque. Et c'est la différence entre les individus éduqués et les individus non éduqués.
Sarah Chiche.
Ce qui pose question aussi, c'est, j'ai l'impression, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au fond, dans le monde adulte, être tyrannique avec les autres est plus socialement valorisé que d'être gentil? On le voit encore dans certains médias, dans certaines émissions grand public très suivies, où des animateurs jouent les sales gosses en toute impunité. Et ils sont pas arrêtés. Donc il y a quelque chose comme ça qui est valorisé de l'enfant, de l'adulte, avec l'enfant dans l'adulte tout puissant, sale gosse, et qui est dans un hédonisme qui n'est jamais arrêté. Alors vous parliez tout à l'heure des pervers narcissiques. Et des adultes tyrans. Attention, c'est pas la même chose parce qu'on a tendance à mettre du pervers narcissique absolument partout. Le pervers narcissique, il est vraiment dans la jouissance d'écraser l'autre, de le traiter comme une chose, de le réduire à néant. Alors que l'adulte tyran, Non, ils ne considèrent pas que les autres sont comme des objets, mais ils considèrent que les autres sont à son service et qu'il est le centre du monde. Mais il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas de cruauté comme chez le pervers narcissique.
Julia Foyce.
Non, c'est qu'on parlait de dette tout à l'heure, et en fait, il faut peut-être essayer de sortir, parce qu'il faut, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de cette relation de dette, mais de double dette. C'est-à-dire que non, effectivement, on ne doit rien à un enfant, mais l'enfant ne nous doit rien non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à venir là. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ça,
Je regrette, madame, de m'opposer très vivement.
Alors, changeons-nous, monsieur.
Très vivement, il n'a pas demandé à être là. D'accord.
Il n'a pas demandé.
Pour une raison simple.
Ben oui.
C'est que vous ne vous rendez pas compte, quand même, que s'il est là, c'est qu'on lui a donné la vie.
Mais donc,
c'est extraordinaire.
Mais il n'a rien demandé, lui.
Mais comment voulez-vous qu'il demande alors qu'il n'existe pas?
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il
est là,
pas construire...
on lui a donné la vie. C'est toute la différence entre la vision du monde qui consiste à dire que la vie est un continuum qui est scandé par la mort, et l'autre vision qui consiste à dire que nous sommes dans le règne de la mort, dans lequel la vie n'est qu'un accident. C'est ça la différence. Eh bien non, la vie n'est pas un accident. Cet enfant à qui on a donné la vie, il l'a pas demandé, il a à remercier de l'avoir eu.
N'hésitez pas
à nous remercier, nous les
absolument. Ça s'appelle la dette symbolique, madame.
Mais attendez, mais quand on a des parents maltraitants, quand on a des parents terrifiants, on ne peut pas les remercier. Il y a tout un travail à faire.
Mais précisément, ouais. Puisque vous êtes psychanalyste, vous savez très très bien que quand on est l'enfant de parents maltraitants, c'est très étrange. Mais on y tient beaucoup à ses parents.
Oui, tout à fait.
Et on est dans une sorte d'asservissement à leur endroit, prêt à leur pardonner tout. Et c'est bien ça, et c'est bien la preuve
même qu'il existe... Mais justement, on s'en sort quand on sort de cette logique de dette.
Qu'il existe une dette symbolique.
N'hésitez pas à réagir à ce qui vient de se dire au 01 45 24 7000. Bonjour Marie, on vous accueille. Vous appelez du 18e à Paris.
Oui, j'appelle du 18e en tant que maman de deux ados et aussi en tant que directrice de crèche. Je me retrouve tout à fait dans ce qui est dit ce matin. On accueille vraiment des parents et avec des tout petits.
Et qu'est-ce que vous constatez Qu'est-ce que vous constatez?
Je constate que les parents sont dans une grande culpabilité et qu'ils ont l'impression que s'ils refusent ou même s'ils mettent une règle tout ce qu'il y a de plus normal à leur enfant, ils vont être mal aimés en fait. Ils ont peur que leur enfant ne les aime pas pour leur avoir interdit quelque chose ou pour leur avoir imposé de se coucher à l'heure à laquelle il fallait se coucher. Et dans une grande, souvent ils parlent beaucoup à leurs enfants, ils expliquent beaucoup, mais en même temps ils leur demandent beaucoup de choisir aussi, et ça met des enfants en difficulté qui supportent peu la frustration.
Témoignage très intéressant, Marie. Sarachi, vous comprenez les parents évoqués par Marie qui mettent leur enfant au centre de tout et puis qui peuvent culpabiliser, qui ont peur de faire du mal à leur enfant en les frustrant et qui ont même peur de ne plus être aimés de leur progéniture?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une telle... Effectivement, je vois sur votre table un magazine d'éducation positive. En ce moment, c'est extrêmement valorisé, oui, d'être bienveillant vis-à-vis de son enfant et de réparer. On a peur, on veut réparer ce que soi-même, on n'a pas connu. On veut donner le meilleur à son enfant. Et donc, c'est comme ça que, oui, effectivement, il ne faut pas diaboliser non plus les parents qui veulent être bienveillants avec leurs enfants. Il ne faut pas diaboliser non plus les parents qui préfèrent privilégier le dialogue à l'autoritarisme. Je crois que chacun fait comme il peut.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé. Aldo Nauri, face au registre pulsionnel des enfants rois, vous défendez une éducation davantage basée sur l'exercice de l'autorité.
Tranquille.
Exemple concret, que faire pour que l'enfant comprenne qu'il est temps d'aller se coucher et cet enfant qui refuse d'aller se coucher et qui préfère regarder la télé?
Vous savez, l'enfant, il est branché de façon extraordinaire sur l'inconscient parental, et sur l'inconscient maternel en particulier. Toutes les fois qu'une mère donne un ordre, et que cet ordre n'est pas suivi par l'enfant, vous pouvez tirer comme conclusion qu'elle n'était pas absolument certaine que cet ordre avait sa valeur et qu'elle était qu'elle l'avait donné avec l'intention de se faire obéir. C'est-à-dire que l'enfant perçoit le doute maternel et va rentrer dans un débat avec cette mère-là. Mais toutes les fois qu'une mère, qui donc donne un ordre, parce que je dis une mère parce que c'est elle qui est au centre du dispositif, c'est elle qui il reçoit sa mère 5 sur 5 comme elle reçoit 5 sur 5, ce qui n'est pas du tout le cas du père. Eh bien, toutes les fois qu'une mère donne un ordre tranquille en étant en accord avec elle-même avec cet ordre, ce que j'appelle être l'auteur de son propos, c'est-à-dire une certaine autorité et cette autorité tranquille, l'enfant généralement ne rouspète pas, ne dit rien, obéit et ne dit rien.
Mais vous comprenez que parfois ce discours puisse être difficilement audible pour des parents adeptes d'une éducation plus bienveillante, une éducation positive qui permet à l'enfant de s'épanouir, de développer son potentiel.
Mais c'est bien la raison pour laquelle
en harmonie avec son environnement.
Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne cesse pas de hurler qu'un enfant c'est extraordinairement solide, que c'est plastique, que ça se répare remarquablement, que ça. Il faut être pédiatre, je veux dire, voir un gamin avec 45 dixièmes au fin fond du truc, c'est extraordinaire, et de le voir 2 heures après. Il n'y a plus rien. C'est formidable d'énergie, vous voyez. Eh bien, c'est important de prendre ça en considération parce que c'est ce qui permet de comprendre que on n'a pas à s'inquiéter outre mesure, parce que l'inquiétude outre mesure, ça fabrique des phobies, n'est-ce pas? On le sait très bien. Eh bien, quand par exemple, si vous voulez, d'avoir trop peur de mal faire, ça fait. Moi, je. Docteur, comment fait-on pour éteindre la télé, me demande une mère. Bon. Il n'y a pas un bouton. Mais elle la rallume. Mais quand elle dit qu'elle la rallume, on a l'impression que c'est le tyran obèse, boutonneux de 14 ans qui va la tuer. Elle pèse 8 kilos, celle qui la rallume.
Sarah Chiche.
Voilà. Oui, alors, période de l'année oblige, en ce moment, ce que je vois beaucoup, ce sont des parents, des mères qui sont asservies par les ados qui passent le bac. Elles ont peur que l'ado n'ait pas le bac. Et donc, voilà, est-ce qu'il va avoir le bac, est-ce qu'il va pas l'avoir? Et toute la famille va s'organiser autour de celui qui va passer le bac, qui va imposer sa loi de façon tyrannique. On va s'angoisser, est-ce qu'il va aller aux examens, est-ce qu'il va pas y aller, est-ce qu'il va se lever à l'heure, est-ce qu'il va pas y aller. Et du coup, voilà, la cellule familiale est totalement pulvérisée par des ados assez tyranniques.
Allez, question-réaction 01-45-24-7000. Boys, I get around.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Arrêtez, Julia Foch, de vous moquer de mon accent
anglais.
Non, mais je vois votre regard. très coquin. 10h41 et on s'intéresse ce matin à ces enfants et ces adultes intolérants à la frustration et adeptes du tout tout de suite et du moi. Aldo Nauri, pour éviter peut-être que l'enfant devienne tyrannique, tout puissant, il est essentiel de lui enseigner l'autre. Enseigner l'autre, ça passe notamment par la politesse, qui doit être, selon vous, une priorité dans l'éducation des enfants.
Ah oui, absolument. Je trouve que, évidemment, souvent c'est critiqué parce que ça consiste à dire on en fait un petit singe. Mais il y a des choses qui s'apprennent. Il y a des choses qui s'apprennent et qui finissent par prendre sens. Et de ce côté-là, on néglige beaucoup trop, à mon sens, la politesse, c'est-à-dire ce qui scande la relation à l'autre sous forme d'un certain nombre de formules qui font que dans cette relation-là, il y a quelque chose qui se met à exister.
Bonjour Dominique Picard.
Bonjour. Allô.
Professeur de psychologie sociale à l'Université Paris 13. Vous avez notamment publié « Pourquoi la politesse ?» et « Politesse, savoir-vivre et relations sociales » dans la collection « Que sais-je ». La politesse, c'est la meilleure manière d'enseigner l'existence de l'autre aux enfants. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est une des manières.
Une des voies, bien sûr.
Oui. Bien sûr, une des voies possibles. Alors, c'est vrai que le fondement de la politesse, c'est d'enseigner la façon dont on se comporte avec les autres. Donc, premier enseignement, les autres existent.
Voilà.
Ça, c'est très important. Deuxième enseignement, il y a quelque chose de la réciprocité dans l'action avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un individu qui reçoit tout et un autre qui donne tout. Donc, ça évite, si vous voulez, cette espèce de rapport de place inégalitaire qu'on a chez l'enfant tyran, qui a été parfaitement décrit jusqu'à présent, je n'y reviens pas. Et pour ce qui est du devenir, à partir du moment où la politesse apprend aux enfants d'abord et rappelle aux adultes ensuite que dans leur relation, il y a toujours une histoire de recevoir et de donner, ça évite cette position spécifique du tyran qui est de dire il n'y a qu'un seul type de rapport qui est entre les gens, qui est un rapport de force, dans lequel il y en a un qui gagne et un qui perd. Et si je ne suis pas celui qui gagne ou celui qui domine, eh bien je vais me retrouver automatiquement celui qui est dominé, puisqu'il n'y a pas d'autre rapport de force dans l'imaginaire, bien sûr, du tyran. Et la politesse apprend qu'il y a, il existe un rapport de place où simplement il y a des différences de position, mais qu'il n'y a pas un dominant et un dominé.
Sarah Chiche.
Oui, je crois que c'est effectivement, dans la politesse, il y a une question de langue, d'apprentissage du langage. Donc s'il y a bien un rôle des parents, mais aussi de l'école, c'est apprendre à s'exprimer correctement. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de la langue.
Mais je veux juste préciser que c'est pas l'essentiel, je crois, de la politesse, l'apprentissage de la langue et de s'exprimer correctement. Je crois vraiment que l'essentiel de la politesse, c'est d'apprendre à se positionner par rapport aux autres.
Mais on se positionne bien dans la langue, madame, via la langue.
Entre autres, bien sûr. Mais ce n'est pas la première chose. Dire merci, je suis désolée de vous avoir coupé la parole, excusez-moi.
Mais je vous en prie.
Mais dire merci, ce n'est pas... Bien sûr, il faut apprendre le code. Mais dire merci, ce n'est pas apprendre à dire merci et les différentes façons qu'il y a de dire merci. Le plus important, c'est que à partir du moment où je dis merci, c'est je reconnais que le cadeau qu'on m'avait fait ou la gentillesse qu'on a eue à mon égard, elle n'était pas automatiquement due. C'est pour ça que je remercie. Et à mon avis, c'est ce qui est sous-jacent à ça qui est beaucoup plus important. Ouais. Maintenant, je vous rejoins complètement. Ça passe beaucoup par le langage verbal et langage corporel.
Restez avec nous, Dominique Picard. On évoquera avec vous comment se comporter face à un adulte tyran en cas de conflit. Un courriel qui vient de nous parvenir, de Marie-Christine, mère de famille recomposée. Je constate avec désarroi les dégâts sur un enfant roi lorsqu'il devient adulte. Aujourd'hui, il a 22 ans et était incapable de se confronter au réel. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Vous appelez...
Bonjour, monsieur Naouri, bonjour.
Vous appelez de Villemur, vous appelez de Villemur-sur-Tarn. Ça vous parle, le courriel de Marie-Christine?
Tout à fait, ça me parle beaucoup parce que, bon, je vis un peu la même situation. Mon fils a été élevé par ma mère entre 0 et 6 ans comme un enfant roi. Sans aucune frustration, tous ses caprices lui étaient accordés. Et dans sa vie d'adulte maintenant, eh bien, il est devenu un peu l'adulte tyran.
Ça se traduit comment, Laurence?
Alors, ça se traduit par ce que j'ai entendu, le témoignage de la sociologue auparavant, là où tout lui est dû. Tout lui est dû et il ne supporte aucun refus, aucune frustration, toujours, voilà. Et donc, dans sa vie de couple, bien évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Puisqu'il est déjà séparé d'avec sa femme, il a une petite fille, et ça pose beaucoup de conflits. Et ma question était de savoir si la période entre 0 et 5 ans est-elle vraiment primordiale pour le devenir de l'adulte, et notamment chez un garçon.
Réponse du pédiatre Aldo Naouri.
Ben, c'est-à-dire que c'est le moment où c'est le plus facile. Quand ça n'a pas été réussi à cet âge-là, on peut toujours mettre en place des éléments de modification des comportements avec l'enfant, mais ça demande de l'aide. Et on peut toujours rattraper des choses. Je pense que à peu près jusqu'à la prépuberté, quand ça n'a pas été rattrapé après à la prépuberté, malheureusement, ça devient extrêmement difficile ensuite. Et même si l'individu va sur un divan, c'est pas ce qui l'éduquera. Hein.
Sarah Chiche, c'est pour vous ça, pour la psychanalyste que vous êtes.
Oui.
No comment. Laurence, est-ce que votre fils, si je comprends bien, est intolérant à la frustration?
Il est intolérant à la frustration, ouais. Et tout à fait. Il fait toujours des caprices, mais bon, au niveau adulte, évidemment, et supporte très mal. En fait, il se place toujours comme le dominant. Voilà, donc ça rejoint aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure, de la politesse pour lui. Bien sûr, il va savoir dire merci, bonjour, au revoir, enfin bon. Mais c'est quelque chose qui lui est très difficile de faire dans sa vie privée et intime.
Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir appelé de Villemur-sur-Tarn. Alors, pour le psychologue américain Albert Ellis, l'intolérance à la frustration est à l'origine de beaucoup de troubles psychiques et du comportement. Pour Ellis, la plupart des problèmes émotionnels viennent d'une faible tolérance aux frustrations. Vous êtes d'accord avec ça, Sarah Chiche?
Je trouve ça peut-être un petit peu
réducteur,
légèrement réducteur. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est voilà, j'aimerais qu'on revienne sur l'idée comment désamorcer un tyran dans
comment
différentes situations.
Comment on fait quand on est confronté à un adulte roi, un adulte tyran?
Alors, il y a plusieurs contextes. C'est-à-dire que par exemple, si c'est au travail et que vous êtes confronté à quelqu'un qui va imposer sa loi de façon très très tyrannique, c'est très difficile de s'y opposer seul, hein, parce que dans ces cas-là, c'est un combat perdu d'avance, surtout si c'est un supérieur hiérarchique. Dans ce cas, ce que je recommande, c'est de se mettre à plusieurs, de former une coalition, parce que tout seul, il sera très difficile de désamorcer le tyran. Dans la famille, dans le couple, c'est autre chose. Quand on est seul face à un partenaire tout à fait tyrannique, comment est-ce qu'on fait?
Attends, petite précision, c'est pas forcément un pervers narcissique. Hein.
Pas du tout,
voilà,
pas
on
du
est
tout.
D'accord,
non,
hein.
Non, c'est pas du tout le pervers narcissique qui cherche à humilier, à détruire,
voilà.
C'est simplement le conjoint qui va imposer sa loi, qui va penser que les autres sont à son service et qu'on lui doit tout.
Et voilà. Surtout, on le rappelle intolérant à la frustration.
Voilà.
Alors, et comment on fait alors, Sarah
alors,
Chiche?
Souvent, ces personnes-là vont mettre sur la table le fait que parce qu'elles ont eu une enfance difficile ou épouvantable ou que leur maman les a beaucoup aimées, et ben, ça explique leur comportement. L'écueil, peut-être, c'est de se dire « Ah ben oui, il ou elle a eu telle ou telle enfance ou telle ou telle maman, l'excuse. Donc je dois l'excuser. Je pense que dans ces cas-là, il y a peut-être deux stratégies. Monsieur Naouri me dira s'il est d'accord ou pas. L'une d'elles, c'est peut-être l'indifférence. Ah ben si, voilà, le tyran s'agite et continue à s'agiter, à faire beaucoup de bruit, à prendre beaucoup de place, ben on déserte un petit peu. On va au cinéma ou alors on sort. Ah, tu veux pas t'occuper de ça? Ben je m'en occuperai pas non plus. » Une autre stratégie possible, c'est l'humour. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent être tyranniques par leur maniaquerie. On peut lui dire, bon, ben, ta maniaquerie, tu la mets quand à la machine à laver? Essayer de faire un petit pas de côté pour pas se laisser emprisonner et submerger par une relation tyrannique.
Dominique Picard, vous êtes toujours en ligne. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale, spécialiste des relations interpersonnelles. En cas de conflit avec un adulte roi, qui peut devenir un adulte tyran, qu'est-ce que vous préconisez?
Bon, alors déjà tout dépend effectivement de la relation hein, qu'on a, si c'est son conjoint ou si c'est effectivement son collègue de travail ou si c'est son voisin de palier, ça sera pas la même chose bien sûr. Mais je pense que fondamentalement il faut se dire qu'on ne change pas les autres. On n'a pas ce pouvoir-là. On a le pouvoir de changer soi-même, mais on a aussi le pouvoir d'au moins tenter de changer la relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, si on est face à un adulte tyran, c'est qu'effectivement, on est face à quelqu'un qui fait tout tourner autour de lui et à quelqu'un qui estime, pour X raisons, que ses visions sont justes, ses besoins doivent être avant toute chose les premiers, etc., et qui impose son système de valeurs. Par exemple, pour dire que c'est vraiment pas un pervers narcissique, vous savez, l'adulte tyran qui passe son temps à vous faire des cadeaux, sans s'occuper de savoir si vous en avez envie, qui vous dit « je t'ai retenu, oh je t'ai retenu, j'ai pris une place de concert, eh ben j'en ai pris une pour toi, tu regardes, j'ai vu ce pull, je suis sûre que tu en avais envie », c'est insupportable parce qu'il ne tient pas compte de vos propres besoins, il tient compte des siens, c'est-à-dire lui, cet adulte-là, il aimerait qu'on se conduise comme ça à son égard, parce que il a un besoin de qu'on s'occupe de lui, qui reste inextinguible. Alors du coup, il s'occupe des autres, mais les autres n'ont pas forcément besoin ni envie qu'on s'occupe d'eux. Alors comment on fait?
Dominique Picard.
Pardon.
Très vite, hélas, on a bientôt terminé.
Eh ben très vite, il faut rappeler qu'on existe. Il faut rappeler qu'on a des besoins et que ces besoins-là sont pas ça. C'est-à-dire, je te remercie, c'est très gentil, mais franchement, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'attends de toi. Donc, faudrait peut-être qu'on revienne là-dessus. Voilà très vite ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Picard, d'avoir été en ligne avec nous. Également, Aldo Nahouri, un mot de conclusion rapide sur ce qu'on vient de se dire.
Moi, j'ai retenu de tout cela que l'arme absolue, pour moi, c'est l'humour.
Oui.
Parce que précisément, on est là dans quelque chose qui combat les éléments de destruction portés par toutes ces attitudes.
Très belle conclusion. Merci beaucoup, Aldo Nahouri. Je recommande vraiment trois grandes questions autour de la famille chez Odile Jacob Books et également le tout dernier, Entendre l'enfant, également chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Sarah Chiche, d'être venue. Éloge du Mikado est publié au PUF. Tout de suite, Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
Once upon a time.
Il était une fois.
Les engrenages continuent de tourner, ça ne s'arrête jamais.
In the web.
Dans le web.
Bonjour Dula Foyce.
Bonjour Ali, bonjour.
Alors, poussé par l'envie de faire le buzz, ou bien par l'appât du gain, ou bien les deux, un couple américain est passé de parent à tyran, et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, Dula Foyce.
C'est l'histoire d'un petit rouquin, un petit garçon américain, tache de rousseur, visage poupin, au-dessus d'un corps de catcheur, trapu, teigneux, un peu râleur. Disant c'est une star Cody, connue à travers tout le pays, pourtant personne ne l'envie. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, la cigogne était-elle bourrée? En tout cas, elle s'est bien gourée d'adresse quand elle l'a déposé chez son père et chez sa belle-mère avec sa sœur et trois demi-frères. Ici, ça n'est pas que les parents n'aiment pas vraiment leurs enfants. Non, c'est juste qu'ils trouvent marrant de les transformer en jouets vivants. Et si en plus, on peut filmer et puis poster et partager sur les réseaux, eh ben, bingo! Exemple avec cette vidéo, les mômes font une tête bizarre quand ils voient leur père défoncer à coups de marteau. Leur console, c'était une fausse, qu'est-ce qu'on rigole ! Mieux, quand ils rentrent dans leur piot, les voient que tout est saccagé, tout mis à terre et tout cassé. Leurs jouets, leurs livres, leurs affaires, sur leur visage de la stupeur quand on parle des cambrioleurs qui ont emporté avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux. La caméra, en plan serré, filme bien leurs visages inquiets. C'est maman qui la tient tout près, maman qui veut leur réaction quand papa leur dira « Mais non, c'était une blague, que vous êtes bêtes ! Ah, ce qu'on est fun, hein, maman ?» Pépette. Et hop, les images postées, c'est bon pour la postérité. C'est que de semaine en semaine, le succès de ces vidéos grandit sur les réseaux sociaux. Les parents en font une chaîne sur YouTube et c'est une aubaine pour tous ceux qui aiment regarder quand les autres se font maltraiter. Fans de télé-réalité, bienvenue chez les Thénardier 2.0. Victor Hugo, tu peux te rendormir tranquille. On a trouvé une famille qui flatte nos instincts les plus bas, comme quand on était tout petit, qu'on faisait brûler des fourmis. Là, encore mieux qu'une bestiole, c'est des enfants et on se gondole. Surtout que le père sait y faire pour fidéliser une audience. Et tant pis s'il y a de la souffrance, tant pis si l'espace d'un instant. Ces cinq gamins, ces cinq enfants ont vu leur monde s'écrouler quand il les a tous rassemblés pour leur avouer la vérité, leur raconter et sans broncher qu'ils ont tous été adoptés. On filme les regards stupéfaits, les mentons se mettent à trembler, les larmes vont bientôt couler, c'est le signal qu'attend la belle-mère pour se mettre à rire aux éclats, caler derrière sa caméra. Quoi, c'est sadique, n'importe quoi, humoristique, et puis voilà. Voilà que maintenant ils sont 1000 et bientôt 750 000 à s'abonner, à se poiler devant cet humour ravageur. Alors bienvenue aux annonceurs, eux aussi ont flairé la manne et sont donc prêts à donner de la maille. Les parents tirent, on se frotte les mains et vont toujours un peu plus loin. Brimade, moquerie et coups en douce, faut que ça mousse, que ça buzz bien. Et comme c'est Cody le préféré des internautes, le plus liké, c'est sur lui qu'on va s'acharner. C'est le plus petit, le plus fragile, celui qui a l'alarme facile. On adore quand sur les toilettes, il crie « Je t'en prie, papa, arrête !» Et la fois où, sur la moquette, il s'était fait pipi dessus à force de hurler « J'en peux plus !» Oh, et le visage tuméfié quand son grand frère l'avait poussé. Ah non, ça, ça n'est pas passé, inaperçu. On s'est ému. C'est une star des réseaux sociaux, un certain Philippe DiFranco, qui a donné le coup de sifflet. La fin de partie avait sonné. Il a mené une campagne à coup de vidéo lui aussi. Et alors, comme par magie, tout le monde s'est enfin réveillé. Les mêmes qui avaient tant ri ont tous poussé des cris d'orfraie. On a alerté les médias, appelé des juges, des magistrats. Les parents se sont excusés, piteux, miteux. Ils ont regretté une dernière vidéo postée pour dire comme ils s'en voulaient et que maintenant, ils espéraient que Cody se fasse une belle vie. Trop tard, ils n'en sauront rien. La garde leur a été retirée. Cody est rentré chez sa mère, c'est elle qui l'a annoncé, et en vidéo autant qu'à faire, pourquoi se priver d'un peu de lumière? C'est l'épilogue d'un feuilleton où tout le monde aura pris sa part, tout le monde sauf le petit garçon de cette histoire.
Et je vous laisse imaginer les regards consternés de la psychanalyste Sarah Chiche et du pédiatre Aldo Naouri. Merci beaucoup Julia Foyce, à mercredi prochain, La Technique ce matin, Éric Morin et Pauline Laverdure. Demain on se demande comment repérer les perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne. Nous attendons toutes vos questions et témoignages par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com.